France Inter, il est 7h30, soyez les bienvenus. Le journal, Sébastien Legeny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la lutte contre les pesticides devant la justice administrative. C'est aujourd'hui le procès du maire de Langouette en Bretagne, devenu célèbre grâce à son arrêté municipal controversé. Des centaines de manifestants sont attendus devant le tribunal de Rennes. Reportage à suivre. Un nouveau choc politique en Tunisie, l'élection à la présidence d'un juriste indépendant et sans aucun parti politique. Nous serons dans les rues de Tunis. À suivre également les chiffres de la violence scolaire. 10% des établissements concentrent à eux seuls 60% des actes recensés. L'incendie de Notre-Dame, 6 mois après le chantier, a déjà pris du retard. Et puis pour terminer, la liesse des supporters japonais après la tragédie du typhon Agibis. Leur équipe de rugby qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, le journaliste de France 24, Wassim Nasr, qui est spécialiste des mouvements djihadistes.
France Inter.
Il est devenu, Sébastien, le chef de file des anti-pesticides.
Daniel Cueff, le maire écologiste de Langouette en Bretagne, sera aujourd'hui devant le tribunal administratif de Rennes pour défendre son arrêté municipal qui a fait polémique tout l'été, interdire les produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des habitations. Arrêté suspendu par la préfecture, mais cette fois-ci, la mesure sera jugée sur le fond. Le maire va donc pouvoir faire état de ses arguments devant les juges. Il est soutenu en France, bien au-delà de sa commune, mais continue dans sa ville d'exaspérer ses propres agriculteurs. Reportage sur place à Langouette, en Ille-et-Vilaine, de Sandy Dauphin.
Depuis qu'il a fait la une des journaux avec son arrêté anti-pesticides, Daniel Cueff a reçu des dizaines de lettres de soutien.
C'est toutes les cartes de vœux que nous avons reçues depuis la publication de l'arrêté.
Donc il y a une quinzaine de grosses enveloppes marron de chaque région, la Joie Grand Est, Occitanie.
Ça c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, vous voyez. Monsieur, je suis avec vous à 100%. J'ai pas le temps de les lire toutes.
Et ses arguments pour défendre son arrêté anti-pesticides sont prêts pour l'audience d'aujourd'hui.
Moi, je pense que c'est parfaitement légal puisque je constate qu'il y a une carence de l'État à protéger la population. Je vais le défendre devant le juge et deuxièmement, je respecte la Constitution française dans laquelle est inscrit le principe de précaution.
Argument balayé par Dominique Lorette, agriculteur dans la commune voisine de Gévesey. Il possède quelques hectares à Langouette.
J'en ai très peu, mais j'en ai un petit peu.
Concrètement, ça veut dire quoi si vous faites une bande de 150 mètres non traitée?
Écoutez, c'est très simple. J'ai réduit ma surface de 2/3 à peu près. Bon, ce maire, il a voulu faire le buzz, il l'a fait, c'est formidable. Attendez, je suis pour l'agriculture raisonnée. Moi, j'ai largement réduit. Hein. Et puis, on en met que quand il y a besoin. Je ne vais pas vous dire que je suis heureux quand je prends mon tracteur et mon pulvée. Hein.
Quelques fermes plus loin, un agriculteur bio explique au contraire qu'il ira soutenir le maire de Langouette aujourd'hui. Une manifestation est prévue devant le tribunal de Rennes.
Au chapitre écologie, cet accident maritime spectaculaire, mais sans risque, selon les autorités, sans risque de pollution. Un cargo transportant plus de 2600 tonnes de bobines d'acier s'est échoué ce week-end en plein cœur de la réserve de Bonifacio en Corse du Sud. Malgré les appels répétés des gardes-côtes, 2 bâtons toulonnais ont été envoyés sur place.
Il est 7h33, la communauté internationale de plus en plus inquiète face à l'intensification des combats en Syrie.
5 jours après le début de l'offensive turque contre les Kurdes, on parle déjà de premiers massacres de civils, 10 de tués dans un bombardement près d'un marché à Ras Al Ain. Le nombre de déplacés augmente, 130 000 personnes selon l'ONU, parmi elles 800 proches de l'État islamique. Femmes et enfants qui ont réussi à fuir un centre de détention pour tenter de s'opposer à l'armée turque. Les Kurdes ont signé un accord avec le régime syrien de Bachar el-Assad. Inversement, les Américains, eux, ont fait savoir qu'ils retiraient tous les GIs du nord-est du pays, près de 1000 soldats. Bref, la situation se dégrade. Face à ce constat, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont rencontrés hier à Paris. Paris et Berlin qui appellent Ankara à cesser son opération militaire. On écoute le président français.
L'offensive turque en Syrie, bien évidemment, est au cœur de nos préoccupations. Notre volonté commune que cette offensive cesse, notre conviction que cette offensive prend le risque, d'une part, et nous le constatons d'ores et déjà sur le terrain, de créer des situations humanitaires insoutenables, et d'autre part, d'aider Daesh à réémerger dans la région. Face à cette situation, nous resterons très coordonnés, comme nous l'avons été pour signifier aux Turcs la fin de toutes nos ventes d'armes, mais également sur les initiatives à prendre dans les prochaines heures et les prochains jours.
C'est dans ce contexte géopolitique très tendu que doit se tenir ce soir au Stade de France un match de foot à haut risque entre la France et la Turquie. Les autorités attendent potentiellement 30 à 40 000 supporters turcs. On part maintenant pour Tunis, où des milliers de personnes sont descendues hier dans les rues. Des scènes de liesse populaires pour fêter la très large victoire à la présidentielle de Kais Saied, ce professeur de droit surnommé Robocop pour sa voix de monocorde, qu'il a finalement emporté avec plus de 70% des voix. Très conservateur sur les questions sociales, il est pour la peine de mort et contre l'égalité homme-femme dans l'héritage. En revanche, il n'a pas de lien avec l'ancien système ou avec le milieu des affaires. C'est donc cette intégrité affichée qu'ont célébré hier les Tunisiens dans le centre-ville de la capitale. Reportage de Christian Chesneau.
À peine les premières estimations connues, la foule des partisans du nouveau président a envahi l'avenue Bourguiba en plein centre de Tunis. Beaucoup de jeunes, des familles avec leurs enfants venus fêter la victoire de leur candidat dans une ambiance joyeuse.
Il est très honnête, très sérieux et il parle des jeunes, surtout des jeunes. C'est nous, on voit nous, on casse ça. Il a jeune d'esprit, on n'a pas besoin des vieux dans la mentalité, dans l'esprit, dans le travail. On n'a pas besoin de la politique, on a besoin de nous.
En début de soirée, Kais Saied a dédié son écrasante victoire à la jeunesse qui a massivement voté pour lui.
Merci aux jeunes, aux vieux et même aux enfants qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire. Glorieux peuple tunisien, tu as donné aujourd'hui une leçon au monde entier.
Personnage atypique, au visage impassible, Kais Saied est perçu comme le nouveau monsieur propre de la Tunisie. Tunis, Laurent Makiti, Christian Chesneau, France Inter.
Elles sont devenues le visage du djihad au féminin. Après 3 semaines de débat, la cour d'assises spéciale de Paris rend aujourd'hui son verdict au procès du commando de Notre-Dame. 5 femmes jugées notamment pour avoir tenté de faire exploser des bonbonnes de gaz à proximité de la cathédrale. Le parquet a contre elles requis de 4 à 30 ans de prison. On en vient à cette question. Les violences scolaires sont-elles en train de s'aggraver en France? Question alors que les drames se sont multipliés ces dernières semaines. Un lycéen tué au Lila, en banlieue parisienne, pendant un cours de PS. Un autre élève poignardé dans son lycée de Cerny, dans l'Essonne. Et un proviseur adjoint frappé par un élève dans un établissement de Vierzon. Pour autant, le nombre d'actes violents n'est pas en augmentation. C'est la gravité de cette violence qui a changé les précisions de Sonia Princey.
Les violences scolaires ne sont pas plus nombreuses statistiquement, mais elles sont plus intenses. Au ministère de l'Éducation nationale, une cellule de veille et d'alerte reçoit chaque jour les informations qui remontent des académies. Chaque jour, les faits de harcèlement, les faits de violences entre élèves ou de violences entre élèves et personnels sont recensés. Depuis la rentrée, on ne note pas d'augmentation particulière, mais des agressions plus graves. Ce que confirment aussi des spécialistes des violences scolaires, comme le sociologue Benjamin Moignard, par exemple. Il constate une baisse générale des violences, mais un accroissement de leur intensité. Il l'explique par une accumulation des difficultés dans certains quartiers très ségrégés et pas seulement en région parisienne. Moins de 10% des établissements concentrent 60% des violences scolaires. Et les innombrables plans contre ces phénomènes n'ont jamais prouvé leur efficacité. Le dernier en date, en août dernier, est un plan à minima, reporté pendant près d'un an après l'agression d'une enseignante de Créteil par un élève avec une arme factice. Il n'existe pas de recette miracle contre la violence à l'école, mais un début de solution passe plutôt par le renforcement des équipes dans les établissements et une meilleure formation des personnels.
Sonia Princey, spécialiste éducation à France Inter. La flèche de Notre-Dame qui s'effondre sous les yeux du monde entier. Cela fera 6 mois demain que le feu a pris sous la charpente de la cathédrale. 6 mois après, où en est ce chantier de rénovation, chantier titanesque? Déjà beaucoup de retard et de difficultés. Résultat, l'édifice n'est toujours pas stabilisé, Rémi Brancato.
Notre-Dame n'est pas sécurisée et c'est encore une course contre la montre que mènent les 3 architectes en chef de la cathédrale. Avant de proposer leur diagnostic, leur solution pour la reconstruction, il faut finir de poser les planchers sous et sur la voûte trouée, potentiellement instable. Instable lui aussi l'échafaudage dont le métal a en partie fondu. C'est soudé dans la chaleur de l'incendie. Il doit être retiré cet automne. La crainte, c'est le vent cet hiver qui peut le déstabiliser. Et le chantier a pris du retard, interrompu 3 semaines cet été par le préfet d'Île-de-France. Il a fallu renforcer les procédures de protection des 60 à 70 salariés face au plomb. Ils prennent par exemple une douche à chaque passage entre la zone contaminée et l'extérieur. Et les équipements sont contraignants, confie Aline Magnien, directrice du laboratoire de recherche des monuments historiques. Ces scientifiques se rendent régulièrement à Notre-Dame.
L'assistance respiratoire et le masque nous protègent du plomb, mais l'assistance respiratoire, c'est pas très bon forcément pour le cœur. Et il faut donc des phases de repos, ce qui fait évidemment baisser le nombre d'heures de travail. Ça alourdit considérablement le chantier.
Bref, les procédures s'adaptent en permanence à Notre-Dame avec un personnage très présent, nous glisse une source, l'inspectrice du travail en charge du chantier qui veille au grain.
Rémi Brancato, direction le Japon pour terminer dévasté par un typhon mais transporté par les exploits de ses rugbymen. D'un côté donc le deuil avec au moins 35 morts à cause du typhon Agibis et de l'autre la fierté avec une équipe de rugby qualifiée hier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une première dans l'histoire de ce pays. Reportage à Tokyo de Jérôme Val.
C'est bien plus qu'une victoire. Cette qualification quelques heures après le passage destructeur du typhon le plus puissant de ces dernières décennies a une valeur autre que sportive. Nos cœurs vont vers ceux qui souffrent. Les premiers mots du capitaine de l'équipe japonaise au coup de sifflet final symbolisent l'immense émotion qui a saisi les Japonais en ce dimanche si particulier. Comme chez ce supporter des Brave Blossoms, le surnom de l'équipe nationale. C'est un jour spécial, me dit-il, un jour où on a pleuré ce matin, mais là, on peut faire la fête, oublier un peu, il faut que tout ça continue. Et c'est presque un élan de compassion, de solidarité qui a touché les nombreux supporters étrangers présents à Tokyo. Ils ont pris fait et cause pour le Japon, comme Jean-Philippe, venu des Landes, et qui au départ pourtant soutenait les Écossais.
Je trouve que c'est sympa hein, pour le pays, quoi. Après le typhon, la victoire, c'est pas mal. Hein. C'est un pays qui s'enthousiasme facilement et ça c'est beau.
Ce succès bien sûr ne fait pas oublier les victimes, les milliers de sinistrés, les paysages de désolation et les immenses dégâts, mais il a au moins le mérite de redonner un peu de joie à un pays qui espère maintenant prolonger le plaisir dans sa Coupe du Monde. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Voilà, les Brave Blossoms, comme on les appelle, joueront dimanche prochain contre l'Afrique du Sud pour une place en demi-finale.
Merci Sébastien Legénie. À suivre la politique.